Lucien Leven, chapitre 54. Le général Farry avait fait louer depuis un mois par son petit aide de camp, M. Ménière, un appartement au premier étage, en face de la salle des Ursulines, où se faisait l'élection. Là, il s'établit avec Leven dès 10 heures du matin. Ces messieurs avaient des nouvelles de quart d'heure en quart d'heure par des affidés du général. Quelques affidés de la préfecture, ayant su le courrier de la veille et voyant dans Leven le préfet futur, si M. de Sérenville manquait son élection, faisaient passer tous les quarts d'heure à Leven des cartes avec des mots au crayon rouge. Les avis donnés par ces cartes se trouvèrent fort justes. Les opérations électorales, commencées à 10h30, suivaient un cours régulier. Le président d'âge était dévoué au préfet, qui avait eu soin de faire retarder aux portes la lourde berline d'un monsieur de Marconne, plus âgé que son président d'âge dévoué, et qui n'arriva à Caen qu'à 11h. 30 ministériels qui avaient déjeuné à la préfecture furent hués en entrant dans la salle des élections. Un petit imprimé avait été distribué avec profusion aux électeurs. Honnêtes gens de tous les partis, qui voulez le bien du pays dans lequel vous êtes nés, éloignez monsieur le préfet de Sérenville. Si monsieur Mérobert est élu, député, monsieur le préfet sera destitué ou nommé ailleurs. Qu'importe, après tout, le député nommé. Chassons un préfet tracassier et menteur. À qui n'a-t-il pas manqué de parole ? Vers midi, l'élection du président définitif prenait la plus mauvaise tournure. Tous les électeurs du canton de, arrivés de bonne heure, votaient en faveur de M. Mérobert. « Il est à craindre, si les présidents, dit le général à Leven, que 15 ou 20 de nos ministériels, gens timides, et que 10 ou 15 électeurs de campagne imbéciles, le voyant placé au bureau dans la position la plus en vue, n'osent pas écrire un autre nom que le sien sur leur bulletin. » Tous les quarts d'heure, Leven envoyait Koff regarder le télégraphe. Il grillait de voir arriver la réponse à sa dépêche numéro 2. « Le préfet est bien capable de retarder cette réponse, » dit le général. « Il serait bien digne de lui d'avoir envoyé un de ses commis à la station du télégraphe, à 4 lieues d'ici, de l'autre côté de la colline, pour tout arrêter. C'est par des traits de cette espèce qu'il croit être un nouveau cardinal Mazarin, car il sait l'histoire de France, notre préfet. » Et le bon général voulait prouver par ce mot qu'il la savait aussi. Le petit capitaine Ménière offrit de monter à cheval et d'aller en un temps de galop sur la montagne observer le mouvement de la seconde station du télégraphe. Mais M. Koff demanda son cheval au capitaine et courut à sa place. Il y avait 1000 personnes au moins devant la salle des Ursulines. Leven descendit dans la place pour juger un peu de l'esprit général des conversations. Il fut reconnu. Le peuple, quand il se voit en masse, est fort insolent. « Regardez ! Regardez ! Voilà ce petit commissaire de police freluqué, envoyé de Paris pour espionner le préfet !» Il n'y fut presque pas sensible. 2 heures sonnèrent, 2h30. Le télégraphe ne remuait pas. Leven séchait d'impatience. Il alla voir l'abbé Dijonval. « Je n'ai pu faire différer plus longtemps le vote de mes amis, » lui dit cet abbé, auquel Leven trouva un air piqué, mais était évident qu'il avait différé. « Voilà un homme qui croira que je me suis moqué de lui, et il y va de franc jeu avec moi. Je jurerai qu'il a retardé le vote de ses amis, à la vérité bien peu nombreux. » Au moment où Leven cherchait à prouver à l'abbé Dijonval, par des discours chaleureux, qu'il n'avait pas voulu le tromper, Koff accourut tout haletant. « Le télégraphe marche !»« Daignez m'attendre chez vous encore un quart d'heure, » dit Leven à l'abbé Dijonval. « Je vole au bureau du télégraphe. » Leven revint tout courant 20 minutes après. « Voilà la dépêche originale, » dit-il à l'abbé Dijonval. « Le ministre des Finances à monsieur le receveur général. Remettez 100 000 francs à monsieur le général Farry et à monsieur Leven. » « Le télégraphe marche encore, » dit Leven à l'abbé Dijonval. « Je vais au collège, » dit l'abbé Dijonval qui paraissait persuadé. « Je ferai ce que je pourrai pour la nomination du président. Nous portons monsieur de Crémieux. De là, je cours chez monsieur le Canu. Je vous engagerai à y aller sans délai. » La porte de l'appartement de l'abbé était ouverte. Il y avait grand monde dans l'antichambre, que Leven et Koff traversèrent en volant. « Monsieur, voici la dépêche originale. » « Il est 3 heures 10 minutes, » dit l'abbé Le Canu. « J'ose espérer que vous n'aurez aucune objection à monsieur de Crémieux. 45 ans, 20 000 francs de rente, abonné au débat, n'a pas émigré. » « Monsieur le général Farry et moi approuvons monsieur de Crémieux. S'il est élu au lieu de monsieur Mérobert, le général et moi vous remettrons les 100 000 francs. En attendant l'événement, en quelle main voulez-vous, monsieur, que je dépose les 100 000 francs ?»« La calomnie veille autour de nous, monsieur. C'est déjà beaucoup que 4 personnes, quelque honorables qu'elles soient, sachent un secret dont la calomnie peut tellement abuser. « Je compte, monsieur, » dit l'abbé Le Canu en montrant Koff. « Vous, monsieur, l'abbé Dijonval et moi. À quoi bon faire voir le détail à monsieur le général Farry, d'ailleurs si digne de toute considération ?» Leven fut charmé de ces paroles, qui étaient à Drem. « Monsieur, je suis trop jeune pour me charger seul de la responsabilité d'une dépense secrète aussi forte, etc., etc. » Leven fit consentir monsieur l'abbé Le Canu à l'intervention du général. « Mais je tiens expressément, et j'en fais une condition sine qua non, je tiens à ce que le préfet n'intervienne nullement. » Belle récompense de son assiduité à entendre la messe, pensa Leven. Leven fit consentir monsieur l'abbé Le Canu à ce que la somme de 100 000 francs fût déposée dans une cassette dont le général Farry et un monsieur le doyen, ami de monsieur le Canu, auraient chacun une clé. À son retour à l'appartement vis-à-vis la salle d'élection, Leven trouva le général extrêmement rouge. L'heure approchait où le général avait résolu d'aller déposer son vote, et il avoua franchement à Leven qu'il craignait fort d'être hué. Malgré ce souci personnel, le général fut extrêmement sensible à l'air de « ad rem » qu'avaient pris les réponses de monsieur l'abbé Le Canu. Leven reçut un mot de l'abbé Dijonval qui le priait de lui envoyer monsieur Koff. Koff rentra une demi-heure après. Leven appela le général et Koff dit à ses messieurs « J'ai vu, ce qu'on appelle « vu ». 15 hommes qui montent à cheval et vont battre la campagne pour faire arriver ce soir ou demain, avant midi, 150 électeurs légitimistes. Monsieur l'abbé Dijonval est un jeune homme, vous ne lui donneriez pas 40 ans. Il nous aurait fallu le temps d'avoir 4 articles de la Gazette de France, m'a-t-il répété 3 fois. Je crois qu'ils y vont bon jeu, bon argent. Le directeur du télégraphe envoya à Leven une seconde dépêche télégraphique adressée à lui-même. « J'approuve vos projets. Donnez 100 000 francs. Un légitimiste quelconque, même M. Berryer ou Fitz James, vaut mieux que M. Hampden. » « Je ne comprends pas, » dit le général. « Qu'est-ce que M. Hampden ?» « Hampden veut dire Mérobert, c'est le nom dont je suis convenu avec le ministre. »« Voilà l'heure, » dit le général fort ému. Il prit son uniforme et quitta l'appartement d'observation pour aller donner son vote. La foule s'ouvrit pour lui laisser faire les 100 pas qui le séparaient de la porte de la salle. Le général entra. Au moment où il s'approchait du bureau, il fut applaudi par tous les électeurs mérobertistes. « Ce n'est pas un plat coquin comme le préfet, » disait-on tout haut. « Il n'a que ses appointements, et il a une famille à nourrir. » Leven expédia cette dépêche télégraphique numéro 3. Caen, 4 heures. Les chefs légitimistes paraissent de bonne foi. Des observateurs militaires placés aux portes ont vu sortir 19 ou 20 agents qui vont chercher dans la campagne 160 électeurs légitimistes. Si 80 ou 100 arrivent le 18 avant 3 heures, Hamden ne sera pas élu. Dans ce moment, Hamden a la majorité pour la présidence. Le scrutin sera dépouillé à 5 heures. Le scrutin dépouillé donna. Électeurs présents, 873. Majorité, 437. Voix à M. Mérobert, 451. À M. Gonin, le candidat du préfet, 389. À M. de Crémieux, le candidat de M. Le Canu depuis qu'il avait accepté les 100 000 francs, 19 voix perdues, 14. Ces 19 voix à M. de Crémieux firent beaucoup de plaisir au général et à Leven. C'était une demi-preuve que M. Le Canu ne se jouait pas d'eux. À 6 heures, des valeurs sans reproche s'élevant à 100 000 francs furent remises par M. le receveur général lui-même entre les mains du général Farry et de Leven, qui lui en donnèrent reçu. M. le doyen se présenta. C'était un fort riche propriétaire, généralement estimé. La cérémonie de la cassette fut effectuée. Il y eut parole d'honneur réciproque de remettre la cassette et son contenu à M. le doyen, si tout autre que M. Mérobert était élu, et à M. le général Farry, si M. Mérobert était député. Monsieur le doyen partit, on dîna. « Maintenant, la grande affaire est le préfet, » dit le général, extraordinairement gai ce soir-là. « Prenons courage et montons à l'assaut. Il y aura bien 900 votants demain. Monsieur Gonin a eu 389, Monsieur de Crémieux 19, 408. Nous voilà avec 408 voix sur 873. » Supposons que les 27 voix arrivées demain matin donnent 17 voix à Mérobert et 10 à nous. Nous sommes Crémieux 418, Mérobert 468. 51 voix de M. Le Canu donnent l'avantage à M. de Crémieux. Ces chiffres furent retournés de 100 façons par le général, Leven, Koff et l'aide de camp Minière, les seuls convives de ce dîner. « Appelons nos deux meilleurs agents, » dit le général. Ces messieurs parurent, et après une assez longue discussion, dirent d'eux-mêmes que la présence de 60 légitimistes décidait l'affaire. « Maintenant, à la préfecture, » dit le général. « Si vous ne trouvez pas d'indiscrétion à ma demande, » dit Leven, « je vous prierai de porter la parole. Je suis odieux à ce petit préfet. » « Cela est un peu contre nos conventions. Je m'étais réservé un rôle tout à fait secondaire, mais enfin, j'ouvrirai le débat, comme on dit en Angleterre. » Le général tenait beaucoup à montrer qu'il avait des lettres. Il avait bien mieux, un rare bon sens et de la bonté. À peine eut-il expliqué au préfet qu'on le suppliait de donner les 389 voix dont il avait disposé la veille lors de la nomination du président à M. de Crémieux, qui de son côté se faisait fort de réunir 60 voix légitimistes, et peut-être 80, le préfet l'interrompit d'une voix aigre. « Je ne m'attendais pas à moins, après toutes ces communications télégraphiques. Mais enfin, messieurs, il vous en manque une. Je ne suis pas encore destitué, et M. Leven n'est pas encore préfet de Caen. » Tout ce que la colère peut mettre dans la bouche d'un petit sophiste sournois fut adressé par M. de Séranville au général et à Leven. La scène dura 5 heures. Le général ne perdit un peu patience que vers la fin. M. de Séranville, toujours ferme à refuser, changea 5 ou 6 fois de système quant aux raisons de refuser. Mais, monsieur, même en vous réduisant aux raisons égoïstes, votre élection est évidemment perdue. Laissez-la mourir entre les mains de monsieur Leven. Comme les médecins appelaient trop tard, monsieur Leven aura tout l'odieux de la mort du malade. Il aura ce qu'il voudra ou ce qu'il pourra, mais jusqu'à ma destitution, il n'aura pas la préfecture de Caen. Ce fut sur cette réponse de monsieur de Sérenville que Leven fut obligé de retenir le général. Un homme qui trahirait le gouvernement, dit le général, ne pourrait pas faire mieux que vous, monsieur le préfet, et c'est ce que je vais écrire au ministre. Adieu, monsieur. À minuit et demi, en sortant, Leven dit au général : Je vais écrire ce beau résultat à monsieur l'abbé Le Canut. Si vous m'en croyez, voyons un peu agir ces alliés suspects. Attendons demain matin, après votre dépêche télégraphique. D'ailleurs, ce petit animal de préfet peut se raviser. À 5h30 du matin, Leven attendait le jour dans le bureau du télégraphe. Dès qu'on put y voir, la dépêche suivante fut expédiée. Le préfet a refusé ses 389 voix d'hier à monsieur de Crémieux. Le concours des 70 à 80 voix que le général Farry et monsieur Leven attendaient des légitimistes devient inutile et monsieur Ampden va être élu. Leven, mieux avisé, n'écrivit pas à messieurs Dijonval et Le Canut, mais alla les voir. Il leur expliqua le malheur nouveau avec tant de simplicité et de sincérité évidente que ces messieurs, qui connaissaient le génie du préfet, finirent par croire que Leven n'avait pas voulu leur tendre un piège. « L'esprit de ce petit préfet des grandes journées, dit monsieur Le Canut, est comme les cornes des boucs de mon pays, noir, dur et tortue. » Le pauvre Leven était tellement emporté par l'envie de ne pas passer pour un coquin qu'il supplia M. Dijonval d'accepter de sa bourse le remboursement des frais de messager et autres qu'avait pu entraîner la convocation extraordinaire des électeurs légitimistes. M. Dijonval refusa, mais avant de quitter la ville de Caen, Leven lui fit remettre 500 francs par M. le président Denis d'Angèle. Le grand jour de l'élection, à 10h, le courrier de Paris apporta 5 lettres, annonçant que M. Mérobert était mis en accusation, à Paris, comme fauteur du grand mouvement insurrectionnel et républicain dont l'on parlait alors. Aussitôt, 12 des négociants les plus riches déclarèrent qu'ils ne donneraient pas leur voix à Mérobert. « Voilà qui est bien digne du préfet, » dit le général à Leven, avec lequel il avait repris son poste d'observation vis-à-vis la salle des Ursulines. « Il serait plaisant, après tout, que ce petit sophiste réussît. « C'est bien alors, monsieur, » ajouta le général avec la gaieté et la générosité d'un homme de cœur, « que, pour peu que le ministre soit votre ennemi et ait besoin d'un bouc émissaire, vous jouerez un joli rôle. » Je recommencerai 1000 fois. Quoique la bataille fût perdue, j'ai fait donner mon régiment. Vous êtes un brave garçon. Permettez-moi cette locution familière, ajouta bien vite le bon général, craignant d'avoir manqué à la politesse, qui était pour lui comme une langue étrangère apprise tard. Leven lui serra la main avec émotion et laissa parler son cœur. À 11h, on constata la présence de 948 électeurs. Au moment où un émissaire du général venait lui donner ce chiffre, monsieur le président Denys voulut forcer toutes les consignes pour pénétrer dans l'appartement, mais n'y réussit pas. « Recevons-le un instant, » dit Leven. « Ah, que non ! Ce pourrait être la base d'une calomnie de la part du préfet, de la part de monsieur de Canut, ou de la part de ces pauvres républicains plus fous que méchants. Allez recevoir le digne président, et ne vous laissez pas trahir par votre honnêteté naturelle. » Il me portait l'assurance que, malgré les contre-ordres de ce matin, il y a 49 légitimistes et 11 partisans du préfet gagnés en faveur de M. de Crémieux dans la salle des Ursulines. L'élection suivit son cours paisible. Les figures étaient plus sombres que la veille. La fausse nouvelle du préfet sur la mise en accusation de M. Mérobert avait mis en colère cet homme si sage jusque-là, et surtout ses partisans. Deux ou trois fois, on fut sur le point d'éclater. On voulait envoyer 3 députés à Paris pour interroger les 5 personnes qui avaient donné la nouvelle du mandat d'arrêt lancé contre M. Mérobert. Mais enfin, un beau-frère de M. Mérobert monta sur une charrette arrêtée à 50 pas de la salle des Ursulines et dit « Renvoyons notre vengeance à 48 heures après l'élection. Autrement, la majorité vendue à la Chambre des députés l'annulera. » Ce bref discours fut bientôt imprimé à 20 000 exemplaires. On eut même l'idée d'apporter une presse sur la place voisine de la salle d'élection. Les agents de la préfecture n'osèrent approcher de la presse, ni tenter de mettre obstacle à la circulation du bref discours. Ce spectacle frappa les esprits et contribua à les calmer. Levesne, qui se promenait hardiment partout, ne fut point insulté ce jour-là. Il remarqua que cette foule sentait sa force. À moins de la mitrailler à distance, aucune force ne pouvait agir sur elle. « Voilà le peuple vraiment souverain !» se dit-il. Il revenait de temps à autre à l'appartement d'observation. L'avis du capitaine Ménière était que personne n'aurait la majorité ce jour-là. À 4 heures, il arriva une dépêche télégraphique au préfet qui lui ordonnait de porter ses votes aux légitimistes désignés par le général Farry et par Levesne. Le préfet ne fit rien dire au général ni à Levesne. À 4h15, Levesne eut une dépêche télégraphique dans le même sens. Sur quoi, Koff s'écria « Un peu moins de fortune est plutôt survenue !» Pouliot. Le général fut charmé de la citation et se la fit répéter. À ce moment, ces messieurs furent étourdis par un vivat général et assourdissant. « Est-ce joie ou révolte ?» s'écria le général en courant à la fenêtre. « C'est joie » dit-il avec un soupir. « Et nous sommes... » En effet, un émissaire qui arriva, son habit déchiré tant il avait eu de peine à traverser la foule, apporta le bulletin de dépouillement du scrutin. « Électeurs présents, 948. Majorité, 475. » Monsieur Mérobert, 475. Monsieur de Crémieux, 61. Monsieur Sauvage, républicain, voulant retremper le caractère des Français par des lois draconiennes, 9 voix perdues, 2. Le soir, la ville fut entièrement illuminée. Mais où sont donc les fenêtres des 401 partisans du préfet ? Disait Levesne à Koff. La réponse fut un bruit effroyable de vitres cassées. On brisait les fenêtres du président Denis d'Angèle. Le lendemain, Levesne s'éveilla à 11 heures du matin et alla seul se promener dans toute la ville. Une singulière pensée s'était rendue maîtresse de son esprit. « Que dirait Madame de Chastelet si je lui racontais ma conduite ?» Il fut bien 1 heure avant de trouver la réponse à cette question, et cette heure fut bien douce. « Pourquoi ne lui écrirais-je pas ?» se dit Levesne. Et cette question s'empara de son âme pour 8 jours. En approchant de Paris, il vint par hasard à penser à la rue où logeait Madame Grandet, et ensuite à elle. Il partit d'un éclat de rire. « Qu'avez-vous donc ?» lui dit Koff. « Rien, j'avais oublié le nom d'une belle dame pour qui j'ai une grande passion. »« Je croyais que vous pensiez à l'accueil que va vous faire votre ministre. »« Le diable l'emporte. Il me recevra froidement, me demandera l'état de mes déboursés et trouvera que c'est bien cher. » Tout dépend du rapport que les espions du ministre lui auront fait sur votre mission. Votre conduite a été furieusement imprudente. Vous avez donné pleinement dans cette folie de la première jeunesse qu'on appelle zèle. Chapitre 55. Leven avait à peu près deviné. Le comte de Vèze le reçut avec sa politesse ordinaire, mais ne lui fit aucune question sur les élections, aucun compliment sur son voyage. Il le traita absolument comme s'il l'avait vu la veille. Il a de meilleures façons qu'à lui n'appartient. Depuis qu'il est ministre, il voit bonne compagnie au château. Mais après cette lueur de raisonnement juste, Leven retomba bientôt dans cette sottise de l'amour du bien, au moins dans les détails. Il avait fait quelques phrases qui résumaient les observations utiles faites pendant son voyage. Il eut besoin de faire effort sur soi-même pour ne pas dire au ministre des choses si évidemment mal et si faciles à faire aller bien. Il n'avait aucun intérêt de vanité. Il savait quel juge c'était que M. de Vèze, dans tout ce qui, de près ou de loin, tenait à la logique ou à la clarté de la narration. Par ce sot amour du bien, qui n'est guère pardonnable à un homme dont le père a un carrosse, Leven aurait voulu corriger 3 ou 4 abus qui ne rapportaient pas un sou au ministre. Leven était cependant assez civilisé pour ressentir une crainte mortelle que son amour pour le bien ne le fît sortir des bornes que le ton du ministre semblait vouloir mettre à ses rapports avec lui. Quelle honte n'aurais-je pas si, avec un fonctionnaire tellement au-dessus de moi, je viens à parler de choses utiles, tandis qu'il ne me parle que de détails. Leven laissa tomber l'entretien et prit la fuite. Son bureau était occupé par le petit Debac, qui, durant son absence, avait rempli sa place. Ce petit homme fut très froid en lui faisant la remise des affaires courantes, lui qui, avant le voyage, était à ses pieds. Leven ne dit rien à Koff, qui travaillait dans une pièce voisine, et de son côté éprouvait un accueil encore plus significatif. À 5h30, il l'appela pour aller dîner. Dès qu'ils furent seuls dans un cabinet de restaurateur, « Eh bien ?» dit Leven en riant. « Eh bien, tout ce que vous avez fait de bien et d'admirable pour tâcher de sauver une cause perdue n'est qu'un péché splendide. Vous serez bien heureux si vous échappez aux reproches de jacobinisme ou de carlisme. On en est encore dans les bureaux à trouver un nom pour votre crime. On n'est d'accord que sur son énormité. Tout le monde en est à épier la façon dont le ministre vous traite. Vous vous êtes cassé le cou. » « La France est bien heureuse, » dit Leven gaiement, « que ces coquins de ministres ne sachent pas profiter de cette folie de jeunesse qu'on appelle zèle. Je serais curieux de savoir si un général en chef traiterait de même un officier qui, dans une déroute, aurait fait mettre pied à terre un régiment de dragons pour marcher à l'assaut d'une batterie qui enfile la grand route et tue horriblement de monde. » Après de longs discours, Leven apprit à Koff qu'il ne voulait point épouser une parente du ministre et qu'il n'avait rien à demander. « Mais alors, » dit Koff étonné, « d'où venait, avant votre mission, la bonté marquée du ministre ? Maintenant, après les lettres de M. de Sérenville, pourquoi ne vous brise-t-il pas ? Il a peur du salon de mon père. » Si je n'avais pas pour père l'homme d'esprit le plus redouté de Paris, j'aurais été comme vous. Jamais je ne me relèverais de la profonde disgrâce où nous a jeté notre républicanisme de l'école polytechnique. Mais dites-moi, croyez-vous qu'un gouvernement républicain fût aussi absurde que celui-ci? Il serait moins absurde, mais plus violent. Ce serait souvent un loup enragé. En voulez-vous la preuve? Elle n'est pas loin de vous. Quelles mesures prendriez-vous dans les deux départements de messieurs de Riquebourg et de Sérenville si demain vous étiez un ministre de l'Intérieur tout-puissant? Je nommerais M. Mérobert préfet. Je donnerais au général Farry le commandement des deux départements. Soyez au contre-coup de ces mesures et à l'exaltation que prendraient dans les deux départements, Riquebourg et Serranville, tous les partisans du bon sens et de la justice. Monsieur Mérobert serait roi de son département. Et si ce département s'avisait d'avoir une opinion sur ce qui se fait à Paris? Et pour parler de ce que nous connaissons, si ce département s'avisait de jeter un œil raisonnable sur ces 430 nigauds emphatiques qui grattent du papier dans la rue de Grenelle et parmi lesquels nous comptons. Si les départements voulaient à l'intérieur 6 hommes de métier à 30 000 francs d'appointement et 10 000 francs de frais de bureau, signant tout ce qui est d'un intérêt secondaire, que deviendraient 350 au moins de ces commis chargés de faire au bon sens une guerre si acharnée? Et de proche en proche, que deviendrait le roi? Tout gouvernement est un mal, mais un mal qui préserve d'un plus grand mal, etc. C'est ce que me disait M. Gautier, l'homme le plus sage que j'ai connu, un républicain de Nancy. Que n'est-il ici à raisonner avec nous? Du reste, c'est un homme qui lit la théorie des fonctions de Lagrange, aussi bien que vous et 100 fois mieux que moi, etc., etc. Le discours fut infini entre les deux amis. Kharkov, en sachant résister à Leven, s'en était fait aimer, et par reconnaissance se croyait obligé à lui répondre. Koff ne revenait pas de son étonnement qu'étant riche, il ne fut pas plus absurde. Entraîné par cette idée, Koff lui dit « Êtes-vous né à Paris ?»« Oui, sans doute. »« Et monsieur votre père avait un hôtel magnifique à cette époque, et vous vous alliez promener en voiture à 3 ans ?»« Mais sans doute !» dit Leven en riant. « Pourquoi ces questions ?» C'est que je suis étonnée de ne vous trouver ni absurde ni sec. Mais il faut espérer que cela viendra. Vous devez voir par le succès de votre mission que la société repousse vos qualités actuelles. Si vous vous étiez borné à vous faire couvrir de boue à Blois, le ministre vous eût donné la croix en arrivant. « Tu diable si je ressens jamais à cette mission !» dit Leven. Vous auriez le plus grand tort. C'est la plus belle et la plus curieuse expérience de votre vie. Jamais, quoi que vous fassiez, vous n'oublierez le général Farry, monsieur de Serranville, l'abbé Le Canu, monsieur de Riquebourg, monsieur le maire Rollet. Jamais. Eh bien, le plus ennuyeux de l'expérience morale est fait. C'est le commencement, l'exposition des faits. Suivez dans les bureaux le sort des hommes et des choses, qui sont tellement présents à votre imagination. Pressez-vous, car il est possible que le ministre ait déjà inventé quelques coups de jarnac pour vous éloigner tout doucement, sans fâcher monsieur votre père. À propos, mon père est député de l'Aveyron, après 3 ballottages et à la flatteuse majorité de 2 voix. Vous ne m'aviez pas parlé de sa candidature. Je la trouvais ridicule. Et d'ailleurs, je n'eus pas le temps d'y trop songer. Je la sus par ce courrier extraordinaire qui donna une pâmoison à monsieur de Serranville. 2 jours après, le comte de Vaise dit à Leven : J'ai à vous faire lire ce papier. C'était une première liste de gratifications à propos des élections. Le ministre, en la lui donnant, souriait d'un air de bonté qui semblait dire : Vous n'avez rien fait qui vaille, et cependant, voyez comme je vous traite. Leven lisait la liste. Il y avait 3 gratifications de 2 000 francs, et à côté des noms des gratifiés, le mot « succès ». La 4e ligne portait « Monsieur Leven, maître des requêtes, non succès. Monsieur Mérobert nommé à une majorité d'une voix. Mais un zèle remarquable. » Sujet précieux, 8 000 francs. « Eh bien, dit le ministre, tient-on la parole que l'on vous donna à l'opéra ?» Leven vit sur la liste que le petit nombre d'agents qui n'avaient pas réussi n'avait que des gratifications de 2 500 francs. Il exprima toute sa reconnaissance, puis ajouta : « J'ai une prière à faire à votre Excellence. c'est que mon nom ne paraisse pas sur cette liste. « J'entends, » dit le ministre, dont la figure prit sur le champ l'expression la plus sévère. « Vous voulez la croix, mais en vérité, après tant de folie, je ne puis la demander pour vous. Vous êtes plus jeune de caractère que d'âge. Demandez à des bacs l'étonnement que causaient vos dépêches télégraphiques arrivant coup sur coup, et ensuite vos lettres. C'est parce que je sens tout cela que je prie votre excellence de ne pas songer à moi pour la croix, et encore moins pour la gratification. « Prenez garde, monsieur !» dit le ministre tout à fait en colère. « Je suis homme à vous prendre au mot. Et, parbleu, voilà une plume à côté de votre nom. Mettez ce que vous voudrez. » Leven écrivit à côté de son nom les mots « Ni croix, ni gratification, élection manquée. » Puis raya le tout. Au bas de la liste, il écrivit « Monsieur Koff, 2 500 francs. » « Prenez garde, » dit le ministre en lisant ce que Leven avait écrit. « Je porte ce papier au château. Il serait inutile que par la suite, monsieur votre père me parlât à ce sujet. » « Les hautes occupations de votre excellence l'empêchent de garder le souvenir de la conversation à l'opéra. J'exprimais le vœu le plus précis que mon père n'eût plus à s'occuper de ma fortune politique. « Eh bien, expliquez à mon ami, monsieur Leven, comment s'est passée l'affaire de la gratification. Vous étiez porté pour 8 000 francs. Vous avez effacé ce chiffre. Adieu, monsieur. » À peine la voiture de son excellence eut-elle quitté l'hôtel, que madame la comtesse de Vaise fit appeler Leven. « Diable !» se dit Leven en l'apercevant. « Elle est fort jolie aujourd'hui. Elle n'a point l'air timide et ses yeux ont du feu. Que signifie ce changement ?»« Vous nous tenez rigueur depuis votre retour ? J'attendais une occasion de vous parler en détail. Je puis vous assurer que personne au ministère n'a défendu vos dépêches télégraphiques avec plus de suite. » « J'ai empêché avec le plus grand courage qu'on en dit du mal devant moi à table. Mais enfin, tout le monde peut se tromper, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vos ennemis, par la suite, pourraient vous calomnier à propos de votre mission. Je sais bien que les intérêts d'argent ne vous touchent que médiocrement, mais il faut fermer la bouche sur cette affaire à vos ennemis. Et ce matin, j'ai obtenu de mon mari que vous soyez présenté au roi pour une gratification de 8 000 francs. Je voulais 10 000, mais monsieur Devez m'a fait voir que cette somme était réservée au plus grand succès. Et les lettres reçues hier de monsieur de Sérenville sont affreuses pour vous. J'ai opposé à ces lettres la nomination de monsieur votre père, et enfin je viens de l'emporter, au moment même. Monsieur Devez a fait recopier la liste, où vous étiez placé à la fin et pour 4 000 francs, et votre nom est le 4e avec 8 000 francs. » Tout cela fut dit avec beaucoup plus de paroles, et par conséquent avec plus de mesure et de retenue féminine, mais aussi avec plus de marques de bonté et d'intérêt que nous n'avons la place de le noter ici. Aussi Leven y fut-il très sensible. Depuis 15 jours, il n'avait pas vu beaucoup de visages amis. Il commençait à prendre un peu d'usage du monde. Il était temps, à 26 ans. « Je devrais faire la cour à cette femme timide. Les grandeurs l'ennuient et lui pèsent. Je serai sa consolation. Mon bureau n'est guère qu'à 50 pas de sa chambre. » Leven lui raconta qu'il venait d'effacer son nom. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Seriez-vous piquée ? Vous aurez la croix à la première occasion, je vous le promets. » Ce qui voulait dire « Allez-vous nous quitter ?» L'accent de ce mot toucha profondément Leven. Il fut sur le point de lui baiser la main. Madame de Vaise était fort émue, lui était touché de reconnaissance. Mais si je m'attachais à elle, que de dîners ennuyeux il faudrait supporter, et avec cette figure du mari de l'autre côté de la table, et souvent ce petit coquin de Débac, son cousin. » Toutes ces réflexions ne prirent pas une demi-seconde. « Je viens d'effacer mon nom, » reprit Leven. « Mais puisque vous daignez témoigner de l'intérêt pour mon avenir, je vous dirai la vraie raison, cause de mon refus. Ces listes de gratification, peuvent être imprimées un jour. Alors, elles donneront peut-être une célébrité fâcheuse, et je suis trop jeune pour m'exposer à ce danger. Et 8 000 francs n'est pas un objet pour moi. « Oh, mon Dieu !» dit Madame Devez avec l'accent de la terreur. « Êtes-vous comme Monsieur Crapard? Croyez-vous la République si près de nous ?» La figure de Madame Devez n'exprima plus que la crainte et le soupçon. Leven y eut une sécheresse d'âme parfaite. « La peur, pensa Leven, lui a fait oublier sa velléité d'intérêt et d'amitié. Les privilèges sont chèrement achetés dans ce siècle, et Gautier avait raison d'avoir pitié d'un homme qui s'appelle prince. J'avoue cette opinion à peu de personnes, ajoutait Gautier. On y verrait l'envie la plus plate. » Voici ses paroles. En 1834, le titre de prince ou de duc, chez un jeune homme moins âgé que le siècle, emporte un coin de folie. À cause de son nom, le pauvre jeune homme a peur et se croit obligé d'être plus heureux qu'un autre. Cette pauvre petite femme serait bien plus heureuse de s'appeler Madame Leroux. Ces sortes d'idées de danger donnaient au contraire un accès de courage charmant à Madame de Chastelet. Ce soir où je fus entraînée à lui dire « Je me battrai donc contre vous ». Quel regard ! Et moi, que fais-je à Paris ? Pourquoi ne pas voler à Nancy ? Je lui demanderai pardon à genoux de m'être mis en colère parce qu'elle m'a fait un secret. Quel aveu pénible à faire à un jeune homme et que peut-être on aime ! Et à quoi bon ? Je n'avais jamais parlé de lier nos existences sociales. Vous êtes fâché ? Dit Madame Devez d'un ton de voix timide. Le son de cette voix réveilla Leven. Elle n'a plus peur, se dit-il. Oh, mon Dieu, il faut que je me sois tue au moins pendant une minute. Y a-t-il longtemps que je suis tombée dans cette rêverie ? 3 minutes au moins, dit Madame Devez avec l'air de l'extrême bonté. Mais dans cette bonté qu'elle voulait marquer, il y avait par cela même un peu du reproche de la femme d'un ministre puissant et qui n'est pas accoutumée à de telles distractions, et en tête à tête encore. C'est que je suis sur le point d'éprouver pour vous, madame, un sentiment que je me reprochais. Après cette petite coquinerie, Leven n'avait plus rien à dire à Madame Devez. Il ajouta quelques mots polis, la laissa rouge comme du feu et courut s'enfermer dans son bureau. « J'oublie de vivre !» se dit-il. « Ces sottises d'ambition me distraient de la seule chose au monde qui est de la réalité pour moi. Il est drôle de sacrifier son cœur à l'ambition, et pourtant de n'être pas ambitieux. Je ne suis pas non plus si ridicule. J'ai voulu marquer de la reconnaissance à mon père, mais c'en est assez ainsi. Ils vont croire que je suis piqué de ne pas avoir un grade ou la croix. » Mes ennemis au ministère diront peut-être que je suis allé voir des républicains à Nancy. Après avoir fait parler le télégraphe parlera contre moi. Pourquoi toucher à cette machine diabolique ? Dit Leven en riant presque. Après la résolution de faire un voyage à Nancy, Leven se sentit un homme. Il faut attendre mon père qui revient de ses jours. C'est un devoir. Et je suis bien aise d'avoir son opinion sur ma conduite à Caen, qui est tellement sifflée au ministère. » Le soir, l'envie de ne pas paraître piqué le rendit extrêmement brillant chez Madame Grandet. Dans le petit salon ovale, au milieu de 30 personnes peut-être, il fut le centre de la conversation et fit cesser toutes les conversations particulières pendant 20 minutes au moins. Ce succès électrisa Madame Grandet. Avec 2 ou 3 moments comme celui-ci à chaque soirée, bientôt mon salon serait le premier de Paris. Comme on passait au billard, elle se trouva à côté de Leven et séparée du reste de la société. Les hommes étaient occupés à choisir des queues, elle se trouva seule à côté de Lucien. Que faisiez-vous les soirs pendant cette course en province ? « Je pensais à une jeune femme de Paris pour laquelle j'ai une grande passion. » Ce fut le premier mot de ce genre qu'il eût jamais dit à Madame Grandet. Il arrivait à propos. Elle jouit de ce mot pendant 5 minutes au moins, avant de songer au rôle qu'elle s'était imposé dans le monde. L'ambition réagit avec force, et sans avoir besoin de se l'ordonner, elle regarda Leven avec fureur. Les paroles de tendresse ne coûtaient rien à Leven, il en était rempli, depuis son parti pris pour le voyage à Nancy. Pendant toute la soirée, Leven fut du dernier tendre pour Madame Grandet. On peut penser comment Lucien fut reçu quand il parla d'absence. « Je te renie à jamais !» s'écria son père avec une vivacité gaie. « Redouble d'assiduité et d'attention pour ton ministre. Si tu as du cœur, campe un enfant à sa femme !» L'avant-veille de l'ouverture des chambres, Lucien fut bien surpris de se sentir embrassé dans la rue par un homme âgé qu'il ne reconnut pas. C'était Dupoirier, en habit neuf, bottes neuves, chapeau neuf, rien ne manquait. « Quel miracle !» pensa Lucien.